Bien, bonjour à tous. Bonjour, donc Mathilde Libaud, je suis ravie, très heureuse de vous accueillir et surtout d'accueillir Julie Pagis donc aujourd'hui pour cette conférence sur déconstruire le lieu commun d'une génération 68. Merci à l'Université du Temps Libre d'avoir co-construit donc cette conférence avec nous. On est très heureux de recevoir Julie Pagis aujourd'hui. C'était pas tout à fait gagné au départ. Donc on remercie vraiment Julie Pagis d'avoir fait ce qui était possible pour nous rejoindre aujourd'hui. Je vais faire une introduction très très courte en vous disant que la conférence va être écourtée un petit peu, puisque Julie Pagis doit reprendre un train à 16h11 à la gare Lille-Flandre pour pouvoir rejoindre Paris tout à l'heure. Donc nous allons commencer tout de suite, sans perdre une minute. Je laisse la parole à Julie Pagis. Je vous remercie et je vous invite aussi pour les derniers temps forts ensuite qui conclut le printemps des sciences humaines et sociales, donc demain sur la mode à Roubaix, et ensuite marche de la philosophie mercredi soir à 18h ici à la Mèche. Un grand merci et bonne conférence.
Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Et donc avant de commencer, et comme effectivement c'est écourté parce que mon train en retour a été supprimé, que du coup je dois prendre celui d'avant, pour ceux qui en auraient pas eu assez sur mai 68, j'annonce une journée entière qui va avoir lieu le 29 mai au campus Moulin, dans l'amphi Cassin, de 9h30 à 17h30, et en fait où on restituera une enquête qui a porté sur les trajectoires de 68ards et 68ards à Lille-Roubaix-Tourcoing. Donc là, c'est une enquête à laquelle on a participé à 30 chercheurs sur les trajectoires 68ards dans 5 villes en province, et moi j'ai eu la chance de coordonner à Lille 2 l'équipe qui a travaillé sur ces trajectoires 68ards locales, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de ma thèse réalisée il y a 10 ans, et parce que les données ne sont pas encore analysées, mais donc je vous invite à venir à cette journée du 29 mai au campus Moulin de 9h30 à 17h30. Alors maintenant je vais revenir au travail que j'ai effectué dans le cadre d'une thèse de sociologie politique qui a duré 6 bonnes années et qui est devenu un livre publié en 2014 quelques années après. Comme je le fais dans le livre, je vais dire un mot sur les origines biographiques et intellectuelles de cette enquête de thèse avant d'en présenter la méthodologie rapidement et quelques-uns des résultats. Alors sur le plan, pour comment on en vient à travailler là-dessus, un mot, pas pour parler de moi, mais pour comprendre aussi l'origine, la genèse de l'objet. Donc sur le plan biographique, je suis née en 1980 dans une ferme du sud de la France où mes parents se sont installés en 1974 pour élever des chèvres, à l'image des néo-ruraux qui expérimentent alors ce qu'on a appelé le retour à la terre. Comme d'autres, mes parents ont alors quitté leur travail, ils ont démissionné, ils étaient ingénieurs agronomes, et pour devenir paysans. Mais dans leur cas, cette rupture avec leur destinée probable a été durable et définitive, puisqu'ils y vivent toujours, et donc avec des effets aussi sur la deuxième génération, là je parle de génération familiale, mon frère et moi. Donc, nés en 80 et 82, on a été scolarisés dans l'école publique du petit village de 500 habitants, où un certain nombre d'enfants nous traitaient d'enfants de hippies, nous disaient qu'on puait la chèvre, qu'on ramenait les poux. Je passe vite, mais cela pour dire que mon investissement dans l'école, pour ne pas dire surinvestissement, et la réussite scolaire ont été un moyen, assez conscient, même enfant, pour tout dire, je m'en rappelle, de me venger de ce type de stigmatisation de la marginalité. Et beaucoup plus tard, je vais vite, faire une thèse sur les conséquences biographiques du militantisme en mai 68, ça a été un moyen pour moi de faire avec cet héritage 68ard en le convertissant en objet d'étude, dans une posture d'ailleurs présente chez un grand nombre d'enfants de 68ard, parce que j'ai travaillé sur les parents et sur les enfants. Je n'aurai pas forcément le temps de parler des enfants à la fin, sauf s'il y a des questions, mais en tout cas, un certain nombre d'entre eux, par cette posture réflexive, on fait de ces héritages un objet d'étude en devenant enseignant, chercheur en sciences sociales, en faisant du journalisme politique, par exemple. Alors, ça, c'était pour le « d'où parles-tu, camarade ?» Donc, par ailleurs, il y a des origines intellectuelles, évidemment, à cette thèse. Je ne me reconnaissais pas dans ce que les productions médiatiques, littéraires, mais également scientifiques, donnaient à voir au début des années 2000 d'une supposée génération 68 qui serait opportuniste, bien reconvertie et qui occuperait aujourd'hui les postes de pouvoir dans les champs littéraires, médiatiques, politiques, etc. Et en effet, la mémoire des événements de mai juin 68 a largement été reconstruite en France, notamment au fil des commémorations décennales, sauf qu'elle a été reconstruite sur la base des devenirs de quelques figures médiatiques, porte-parole autoproclamées des événements, on peut penser à Cohn-Bendit, à Serge July, figures qui ne sont pas représentatives des destins 68ards plus ordinaires. Et au fil du coup de cette reconstruction de l'histoire, de la mémoire, ont été évacués certains aspects des événements, et pas les moindres, puisque c'est notamment une grande partie du mouvement ouvrier qui a été écartée de cette mémoire. Le fait aussi que ça a été en France la plus grande grève générale du XXe siècle. Le fait que le marxisme était l'horizon intellectuel d'un grand nombre de personnes à la fin des années 60. Et tout ça a été écarté, voire dénoncé, au profit d'un joli mois de mai, sympathique et indolore, qu'on reconstruit comme ça. Donc ce travail de reconstruction d'une mémoire de 68 s'est renforcé aussi avec l'invention d'une génération 68, que la publication des deux tomes du livre qui s'est intitulé « Génération » de Hervé Hamon et Patrick Rothman a largement contribué à banaliser et à médiatiser cette existence d'une génération 68. Or, tout ce travail se faisant a gommé les parcours de 68ards plus ordinaires, plus communs, et c'est à cette contre-histoire de 68 que je voulais m'attaquer. Je voulais travailler donc sur des anonymes. Il y avait deux grandes questions à l'origine de la thèse qui parcourt l'ouvrage, celle des rencontres entre trajectoires individuelles et événements politiques collectifs, et celle des quelles formes prennent ces rencontres et quelles conséquences ces rencontres entre trajectoires individuelles et événements collectifs vont-elles avoir sur les trajectoires de ceux et celles qui y ont participé, mais aussi sur celles de leurs enfants. Donc c'est cette question des générations politiques et intellectuelles qui est au cœur de la réflexion. Et si les chercheurs s'accordent depuis les travaux fondateurs de Karl Mannheim sur le fait qu'une génération se forme quand une cohorte entière d'individus va être déstabilisée par la participation à un événement historique majeur, déstabilisée au sens où la participation à l'événement va venir modifier, infléchir le cours prévisible des existences. Il me semblait néanmoins que l'événement ne pouvait pas avoir produit une seule génération de manière mécanique, et que tous les participantes et les participants ne pouvaient pas avoir été déstabilisés de la même manière par leur participation à 68. Et il me semblait que ça devait dépendre à minima de leur passé, les trajectoires d'où venaient-elles et venaient-ils avant 68, mais aussi de leur forme de participation, qu'ont-ils fait pendant l'événement. Et donc c'est un peu à cette dialectique entre l'avant 68 et l'effet de l'événement que je me suis attaquée à travers cette enquête. Alors très vite, c'est posé... c'est bien d'avoir des questions, mais en sociologie notamment, en sociologie empirique, se pose tout de suite la question de quel corpus, quel échantillon vais-je pouvoir construire pour pouvoir traiter ces questions. Je savais ce que je ne voulais pas. Vu ce que je vous ai dit, je savais que je ne voulais pas travailler sur les leaders du mouvement, je ne voulais pas me limiter aux étudiants et ni encore aux Parisiens. Mais il y avait, en l'absence de Wuzhou, des anciens 68ards, et pour cause, comment entrer sur le terrain. Donc je passe vite là, parce qu'en même temps, ça a pris une bonne année de réflexion avec mon directeur de thèse, Gérard Moget. Mais en tout cas, si on a réfléchi longtemps à partir d'une organisation politique en 68 ou de plusieurs, c'était une idée, on aurait pu prendre le mouvement du 22 mars, les JCR, plusieurs organisations, puis par les archives remonter aux listes d'adhérents. Sauf que cette entrée organisationnelle aurait écarté de l'échantillon tous les 68ards inorganisés, qui étaient peut-être les plus nombreux. Et donc, c'est là que mon intérêt biographique pour la deuxième génération, celle des enfants de 68ards, a été décisif dans la manière de construire l'échantillon, puisque finalement, les familles sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai accédé par les enfants scolarisés dans deux écoles publiques expérimentales, une à Paris, une à Nantes, où un certain nombre d'ex-68ards ont scolarisé leurs enfants dans les années 70 et 80. Alors faire le choix d'entrer sur le terrain par la deuxième génération et par ces écoles, c'était un moyen de contourner les inévitables porte-paroles des événements, d'accéder à une population d'anonymes qui n'avait pas pris la plume ou parlé, et ça m'a aussi permis d'accéder à une grande variété de trajectoires 68ards, une hétérogénéité à la fois politique, comme je vais le montrer après, il y a une grande diversité des types de militantisme et aussi des moments où il peut y avoir un désengagement, Hein, pour certains, ils ont arrêté de militer peu de temps après 68, pour d'autres, des années après, pour d'autres, il y en a qui continuent à militer au moment où je mène l'enquête, entre 2003 et 2006. Mais du coup, remonter par les enfants permet d'avoir les différents moments du désengagement et de réfléchir à la question des conditions qui permettent le maintien d'engagement politique. Hétérogénéité sociale et aussi des grandes différences d'âge, c'est comme on va le voir et comme vous le savez sûrement, des fois à l'année près, quelques années près, la trajectoire individuelle traverse un événement, ça change tout d'être encore lycéen ou d'être en première année à l'université, d'avoir des enfants ou non, etc. Bon, par contre, évidemment, rentrer par ces écoles, hein, ça vient spécifier le corpus. Hein, je ne dis pas du tout, j'ai travaillé sur tous les 68ards. Et notamment, ces écoles, entrer par ces écoles, ça sursélectionne des 68ards qui ont importé leur militantisme et qui ont mis en pratique leur militantisme dans la sphère familiale et scolaire. Puisqu'en effet, ces écoles expérimentales hein, participent dans les années 70 à un mouvement de critique généralisée des rapports de domination. Par la subversion des rapports pédagogiques. Et du coup, les enfants enquêtés, quand je dis enfants, c'est les enfants de 68 ans, hein, mais qui ont entre 30 et 40 ans au moment de l'enquête, par simplicité de langage. Ils sont nés entre 1965 et 1980, les enfants, et ils se trouvent au cœur de cette critique des normes éducatives via une éducation que j'ai pu qualifier de contre-culturelle, mais j'y reviendrai à la fin. En même temps, c'est aussi important de préciser que ces écoles étant publiques et donc des écoles de quartier, il y a aussi des parents qui ont scolarisé leurs enfants là sans savoir que c'était des écoles expérimentales, ce qui m'a permis d'avoir aussi une diversité plus grande des profils de trajectoire parentale. Alors, après avoir... j'ai dû accéder au registre d'anciens élèves que j'ai photocopié pour les années 70 et début des années 80. Et après, il a fallu rechercher dans la France entière, soit les anciens 68ards, soit leurs enfants. Je passe ce travail de détective où j'ai dû passer plus de 3000 coups de téléphone pour en arriver aux matériaux avec lesquels que j'ai pu recueillir. Ah si, il faut dire un mot, c'est que pendant ce temps... Pendant toute cette réflexion, j'avais construit deux questionnaires, un pour les anciens 68ards, un pour leurs enfants. Et donc, quand j'arrivais à voir les personnes, c'était bien elles au téléphone, je leur demandais si elles acceptaient de répondre à un questionnaire que je leur ai envoyé par la poste avec une enveloppe retour pour faciliter le retour. Et donc, sur les 666 questionnaires envoyés, il y en a 350 qui ont été retournés et qui étaient utilisables. Ça va être ce qui va me permettre de faire la base un peu statistique de l'enquête. Et parallèlement, j'ai aussi mené une enquête par récit de vie, par entretien, dans une partie des familles et recueilli environ 90 entretiens, à la fois avec où j'ai essayé de faire varier les profils, à la fois de parents et d'enfants. Donc voilà un peu pour les matériaux utilisés, ce qui fait qu'au final, le corpus est composé de 169 familles, dans lesquelles l'un ou les deux parents ont participé aux événements de mai 68 et qui ont scolarisé leurs enfants dans une des deux écoles par lesquelles je suis entrée. Alors, après cette longue introduction, je passe sur les enjeux de méthode, là, ce n'est pas le plus important. Je voulais travailler, comme je l'ai dit au début, sur qu'est-ce que ça fait à des gens d'avoir participé à mai juin 68 sur leur trajectoire politique, professionnelle et privée. Sauf que pour travailler cette question des effets du militantisme, il fallait que je revienne à d'où viennent-ils. Et donc, il fallait que je commence par travailler sur l'avant 68 et les déterminants de l'engagement en mai-juin 68. Alors, pour travailler sur cet avant, j'ai articulé les analyses statistiques et les récits de vie. Et en gros, j'ai pu mettre en évidence quatre matrices de l'engagement que je vais vous présenter. Il ne faut pas avoir peur des stats et des patates, c'est des statistiques qui sont très faciles à lire et je vais en faire, j'espère, vous me le direz après, mais je vais vous décrire ça. Pour arriver à ça, je suis partie d'une question comme ça ouverte où je demandais aux anciens 68ards quelles ont été les personnes qui ont été très ou assez importantes dans la formation de vos choix politiques. Ça, c'est pour justement revenir à par quelle voie elles s'étaient politisées. Et en fait, l'intérêt des analyses factorielles, comme je vais vous montrer après, c'est que ça permet de rapporter le vocabulaire employé. Par exemple, vous voyez là, je vais le décrire, mais il y en a qui répondent que c'était Althusser qui a été important, d'autres que c'était le curé, d'autres que c'était l'université de Vincennes, d'autres que c'était un oncle, un grand-père résistant. Sauf que donc là, on a la variété des agents de la socialisation politique primaire, mais l'intérêt des analyses factorielles, c'est de pouvoir rapporter ça aux caractéristiques des enquêtés et montrer que, par exemple, les femmes vont davantage citer des hommes politiques. Enfin, en gros, vous voyez, de rapporter le vocabulaire à qui ils et elles sont. Et ça permet donc de mettre en évidence quatre grandes sous-populations du corpus qui se différencient donc par des voies de politisation en amont de 68 différentes et que je vais présenter brièvement. Alors, pour un premier ensemble d'enquêtés, c'est la patate rouge à gauche. La conscience politique va se structurer dans la sphère familiale, selon la matrice de la transmission familiale de disposition à un militantisme. Donc ici, ces enquêtés héritent d'une tradition politique familiale qui leur est transmise par leurs parents ou leurs grands-parents. C'est les figures les plus couramment citées. Là, on voit grand-père, père, il y a mère aussi. Et donc ici, il y a pas mal de... Je vais me lever souvent, mais il y a besoin pour l'enregistrement. D'accord. Donc dans cette première patate, il y a pas mal d'enfants de militants communistes et ou de militants syndicalistes de la CGT. Et là, je ne vais pas détailler, mais dans le livre, je détaille, je fais des analyses de trajectoires représentatives de chacune de ces matrices. Et d'ailleurs, je sépare le cas d'enfants de communistes de ceux d'enfants qui se disent d'enfants de familles juives et communistes. Parce que cette dimension de, notamment, pas pour le côté pratique religieuse, pas du tout, mais la transmission d'histoire familiale de la persécution, notamment de la déportation, a pu être centrale comme terreau pour nourrir des dispositions au militantisme. Je passe parce que, quelque part, cette matrice, c'est peut-être la moins originale, des enfants de militants qui deviennent militants. Mais en même temps, ça permet d'aller à l'encontre des interprétations psychanalytiques qui n'ont vu en 68 qu'une rébellion de jeunes bourgeois contre leurs parents. Là, l'enquête fournit au contraire la preuve du poids des transmissions familiales, donc politiques à gauche, mais aussi, et peut-être moins connues, moins documentées, des transmissions religieuses. En effet, la deuxième patate qu'on voit là, celle en bleu à droite, ici, ces enquêtés ne se réfèrent pas comme les premiers à leurs parents ou grands-parents, dans leur politisation, mais au curé, donc là vous voyez le curé, à leur environnement, à leur conjoint, on voit ici les mots épouse et mari, à des hommes politiques, et pas n'importe lesquels, par exemple ici, vous voyez, on a un rocard. Et ce sont ici des organisations religieuses d'encadrement de la jeunesse, telles les Jacques, Jocques, Jec. Alors les Jacques, là on voit, il y en a un qui dit c'est l'importance d'un militant Jacques, jeunesse agricole catholique. Les Jocques, c'était les jeunesses ouvrières chrétiennes, très présentes ici à Lille-Roubaix, Tourcoing, et les Jecs, les jeunesses étudiantes chrétiennes. Donc ici, dans cette patate-là, c'est des organisations religieuses et syndicales, évidemment pas n'importe lesquelles, CFDT, dont on connaît l'histoire aussi liée au catholicisme de gauche, qui vont jouer ce rôle de politisation. Donc ici, on trouve des personnes passées par le scoutisme et les organisations religieuses d'encadrement de la jeunesse, donc les Jacques, Jecs, Jocs, dans les années 50, et ici, il va y avoir une conversion des engagements religieux en engagements politiques au cours des années 60, principalement autour des questions liées au tiers-mondisme et aux questions d'anti-impérialisme. Donc avec une politisation, une conversion au moment soit de la guerre d'Algérie et beaucoup plus tard au moment de la guerre du Vietnam. Donc j'en donnerai un aperçu avec un peu plus loin. Par ailleurs, les interprétations qui ont longtemps prévalu parmi les chercheurs expliquent mai 68 par le déclassement, ce qui a été le schéma du déclassement, de jeunes étudiants bourgeois qui seraient déclassés, donc frustrés, donc révolutionnaires. Donc ce schéma, il avait déjà été critiqué par un certain nombre de travaux. Et là l'enquête, j'insiste sur la dimension empirique, quand on va voir ce qui se passe dans la réalité, ça contribue à réfuter aussi ce schéma du déclassement, tout simplement des enfants de bourgeois déclassés, j'en ai quasiment pas dans mon corpus. Et par contre, l'enquête, elle permet de mettre en évidence un profil symétriquement opposé, en fait, celui des intellectuels de première génération, c'est-à-dire les premiers de leur famille qui obtiennent le baccalauréat et font des études supérieures. Et donc là, j'essaie de montrer dans le livre, en le détaillant des trajectoires aussi, comment est-ce que leur mobilité sociale ascendante va être propice à un engagement en mai 68. Alors d'ailleurs, pour le faire, je vais donner un exemple. Je vais partir de l'exemple de Jean, qui est un enquêté, mais je l'ai anonymisé évidemment, pour essayer de montrer ça de manière un peu plus qualitative. Donc originaire de Basse-Normandie, Jean est né en 1939 dans une famille de petits paysans catholiques de droite. Il est troisième d'une fratrie de six enfants. Un de ses frères est désigné par leur père pour devenir prêtre, comme c'est courant dans ses familles. Jean, lui, est repéré par le curé pour ses qualités scolaires et incité à poursuivre ses études. Il devient ainsi, à 11 ans, interne dans un collège puis un lycée catholique, et il est le premier de sa famille à poursuivre des études secondaires, ce qui fait de lui un outsider, puisque les enfants de paysans sont moins de 7% des élèves de 6e au début des années 50. Et ça l'expose à un changement radical de milieu social. En effet, du coup, en quittant leur milieu social d'origine, en le quittant géographiquement et socialement, ces intellectuels de première génération se retrouvent dans des positions de porte-à-faux, et avec des injonctions contradictoires. Si d'un côté, leur mobilité sociale peut faire la fierté de leurs parents et de leurs proches, elle fait aussi en même temps peser sur eux une menace de reniement des origines. Oublie pas d'où tu viens, pète pas plus haut que ton cul, enfin pour le dire ça, je vois certains qui acquiescent, qui doivent s'y reconnaître. Et en effet, investir l'institution scolaire, fréquenter d'autres milieux sociaux, c'est quelque part inévitablement intérioriser en partie du moins le jugement des autres sur soi, avec toute la honte sociale que ça peut entraîner comme ressenti. Et donc, par exemple, Jean me dit, au lycée, les autres, c'était plutôt petite bourgeoisie ou bourgeoisie moyenne, donc pour un fils de paysan, j'avais honte parfois. De quoi, je lui demande, un peu la démarche, tout ça, le côté un peu balourd comme un paysan, quoi. L'habillement, les petits signes. À Domfront, par exemple, mon père me conduisait en carriole dans les années 53-54. C'était quand même la marque d'une identité d'arriver en carriole. Donc, c'est des choses qui marquent. Donc, si Jean souffre de ces expériences quotidiennes de désajustement, de domination, qui lui font prendre conscience de sa différence de classe, il ne la lit pas encore au lycée en termes politiques. Et c'est via d'ailleurs d'abord un engagement religieux au sein de la JAC qu'il va pouvoir commencer à mettre des mots sur ses sentiments de décalage, puisque la JAC, mais c'est très vrai de la JEC et de la JOC, ces organisations d'encadrement religieuses d'encadrement de la jeunesse fournissent à cette époque un cadre pour penser une éthique de l'engagement. C'est le slogan, le voir, juger, agir de la JOC, s'engager notamment auprès des plus pauvres. Donc il y a une socialisation au collectif, au militantisme, etc. Même si ce n'est pas sur un registre politique. Donc pour en revenir à Jean, il entre en Hippocagne à Caen, où il est boursier, et à la fin de sa CAGNE, il est admissible à l'école normale de Saint-Cloud, ce qui lui donne droit aux IPES. Donc là, les plus âgés d'entre nous se rappelle ce que c'était, ça permettait de continuer à faire ses études tout en étant salarié. Donc il poursuit ses études d'histoire, et c'est le contact du milieu étudiant en pleine guerre d'Algérie qui va justement apporter une charge politique au sentiment d'injustice, de malaise d'être fils de paysan qu'il avait ressenti jusque-là. Donc je le cite à nouveau, « Oh, je dirais que je me politise vraiment avec la guerre d'Algérie. Je n'étais pas particulièrement à gauche avant, mais c'est le milieu étudiant. Tant que j'étais dans le secondaire catholique, je ne pense pas que j'avais d'idées politiques. On nous faisait faire des discours, des concours d'éloquence contre le communisme. Si, si. Donc, de ce côté-là, je ne me souviens pas avoir eu des idées politiques autres que ce milieu. Mais ensuite, dans le milieu étudiant, oui, parce qu'il y avait quand même un mouvement contre la guerre d'Algérie. Et je pense que j'avais quand même une conscience de classe. Et là, les deux choses se sont reliées. Donc, effectivement, Jean va s'engager activement dans la lutte contre la guerre d'Algérie au sein de l'UNEF, syndicat étudiant, dans un premier temps, puis au sein d'un groupe socialisme et barbarie qu'il va rejoindre par l'intermédiaire de camarades de classe préparatoire. Alors, je suis passée vite, il y a la suite de cette trajectoire dans le livre, mais en gros, j'ai essayé aussi de schématiser un petit peu ça pour conclure sur cette matrice-là des intellectuels de première génération. Ils font donc l'expérience de la résistance du système universitaire à leur entrée dans le supérieur, puisque en fait, il y a une démocratisation de l'enseignement supérieur dans les années 60, mais jusque-là, les barrières étaient quasi étanches et l'enseignement supérieur était réservé aux classes supérieures. Et donc, la position d'outsider a constitué un terreau propice au développement de critiques vis-à-vis du système universitaire et bientôt plus généralement vis-à-vis de l'ordre social. Ici, les enquêtés qui sont de ce groupe-là citent aussi souvent l'importance de la lecture de Les Héritiers de Bourdieu et Passeron, publié en 65, dans leur politisation. Ce livre, je ne m'appesantis pas, mais qui en gros montrait, chiffres à l'appui, le rôle du système d'enseignement dans la reproduction des inégalités sociales. Et donc, dans la deuxième moitié des années 60, le militantisme d'extrême gauche ou de gauche permet à ces jeunes étudiants de s'engager au service de leur classe d'origine. Donc, c'est aussi une réponse face à la menace de reniement des origines. C'est aussi, certes, je suis à l'université, je quitte ma classe d'origine, mais je mets mes compétences au service d'un militantisme pour là d'où je viens, quelque part. Et en même temps, ces organisations politiques ont aussi été un formidable, je reprends leurs mots, lieu d'acculturation au milieu étudiant, d'intégration. Ça a assuré l'intégration au milieu étudiant. Beaucoup d'entre eux me disent, en fait, il fallait faire des exposés, il fallait avoir lu pour la semaine prochaine Que faire de Lénine. Et en fait, donc, vous voyez, ça nourrit des dispositions à la lecture, à la prise de parole en public, à l'écriture, etc. Et donc, ça a été aussi des moyens de s'acculturer au milieu étudiant. Et donc, si vous savez compter jusqu'à 4 ou si vous avez suivi, il manque une dernière matrice. Et donc, la dernière matrice, que l'enquête met en évidence, c'est la patate verte en bas à gauche de l'écran, qui est propre aux plus jeunes étudiants et notamment aux jeunes femmes du corpus, qui, elles et ils, vivent des situations de décalage de plus en plus intenables entre leurs conditions étudiantes féminines et leurs aspirations. Et ici, en fait, contrairement aux autres, c'est des personnes qui se politisent, qui ne sont pas politisées avant 68, qui se politisent avec 68. Et c'est ici des révoltes vécues jusque-là sur le mode personnel, des révoltes contre l'ordre moral, scolaire, familial, sexuel, conjugal, qui vont se politiser avec les événements de mai 68, qui offrent un cadre pour penser collectivement. Déjà, on n'est plus seul, c'est pas forcément tabou, c'est pas forcément, on ne se sent pas coupable. J'ai des enquêtés qui me disent, ben moi, ça n'allait pas dans mon couple, mais je me dis que j'avais un problème. En fait, pouvoir parler, mettre ça en commun, il y a un effet de politisation de ces crises qui étaient vécues jusque-là sur le mode personnel. Et d'ailleurs, oui, ce qu'on voit peut-être pas trop à l'écran, mais on voit qu'ici, justement, ils citent pas les parents, ils citent pas le curé, et ils citent par contre beaucoup l'importance des mots les pères, mais P-A-I-R-S, amis, et le contact du milieu étudiant. Alors, donc ça, c'était rapidement sur d'où viennent-ils et viennent-elles. Après, dans le livre, de manière assez chronologique, je m'intéresse à comment est-ce qu'ils font l'événement et les différents registres de participation à l'événement. Ça, je ne vais pas le développer ici, mais sur mai-juin 68, je vais dire juste quelques mots qui vont me permettre de développer par contre la suite et que sont-ils et sont-elles devenus. Donc sur la crise politique de 68, hein, avec la grève générale qui concerne entre 8 et 10 millions de grévistes, ça entraîne une suspension du temps ordinaire à un moment critique, dirait Bourdieu, au cours duquel tout ce qui va habituellement de soi est remis en cause. Et donc, c'est cette mise en suspens des rapports sociaux ordinaires qui va entraîner la libération d'émotions, de sentiments d'euphorie qui me sont si largement relatés en entretien et que l'on peut rattacher à ce sentiment éprouvé du tout devient possible. Effectivement, du fait du décloisonnement social, dans ces moments de crise assez rares, hein, les barrières sociales habituellement érigées entre les différents milieux sociaux, elle ne s'effondre pas complètement, mais elle s'abaisse très fortement, ce qui permet des expériences de décloisonnement social qui sont jouissives parce que transgressives, parce que complètement inhabituelles. Et donc ce sentiment éprouvé du tout devient possible, dans ce temps suspendu des événements, va avoir des effets bien réels sur les participantes et les participants, notamment en termes d'ouverture des pensables, de production de nouvelles aspirations, on va le dire, à changer de vie, pour le dire vite. Sauf que changer de vie, selon quelle vie on a avant, ça peut avoir des effets différents. Sauf qu'une fois la conjoncture de crise refermée, hein, on connaît tous le raz-de-marée pour la droite aux élections législatives de juin 68, donc le monde social se recloisonne, et du coup ces aspirations à changer de vie ne vont pas forcément trouver les conditions de leur mise en pratique. Alors c'est ce que j'ai essayé de schématiser ici. C'est l'idée qu'il y a une dissociation donc, entre les aspirations et les moyens de les concrétiser. Et donc, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire des aspirations déçues. Hein, il y avait des choses qu'on voulait voir changer et en même temps, les conditions ne sont plus possibles. Et ces aspirations déçues vont susciter diverses réponses et stratégies pour faire face, en fait, toutes et tous, malgré la diversité des trajectoires enquêtées, vont faire face à un moment. Alors, je dis à un moment parce que pour certains, c'est vraiment au lendemain des événements. Pour d'autres, c'est après des semaines, des mois, voire des années d'un militantisme qui est quasiment du plein temps qu'on investit pour faire advenir cette révolution. Mais tous, à un moment ou à un autre, se trouvent face à la double nécessité à la fois de se reclasser, de retrouver une place dans une société qu'on a espéré voir changer ou s'effondrer, se reclasser. Mais l'autre contrainte, c'est sans renier son passé politique. Et donc, face à cette double nécessité, va y avoir des réponses diverses que j'ai rapidement synthétisées ici. Et il faut toujours rappeler qu'il y en a qui n'ont pas trouvé de réponse possible hein, face à ce hiatus. Et comment continuer à rester fidèle à ses valeurs, à ses pensées, tout en retrouvant une place dans la société qui s'est recloisonnée, ça a donné lieu à des vagues de suicides, alors sur lesquelles il est effectivement difficile d'enquêter, mais que j'ai replacé là en haut. Il y a eu aussi, ça, beaucoup d'enquêtés le relatent, des phases de dépression, des moments où on a cru que les choses allaient changer, puis un difficile retour quelque part à une autre situation. D'autres types de réponses ont été des évasions, alors que ce soit par les voyages, hein, on pense à Katmandou, aller voir ailleurs quelque part si on ne peut pas changer le monde ailleurs. Ça peut être aussi des évasions internes, hein, par les drogues, par différents vecteurs d'évasion. Après, on a aussi, et je passe vite parce qu'après je vais un peu plus le détailler, tout le développement des utopies communautaires, hein, retour à la terre, utopie pédagogique, vie en communauté, où là l'idée c'était à défaut d'avoir réussi à changer le monde, on va essayer de changer les choses dans des contre-systèmes, hein, il y avait un peu à l'image des phalanstères, mais des contre-systèmes où on vit autrement, et puis avec l'espoir que ça se diffuse. Il y a aussi celles et ceux, après je détaillerai qui vont répondre à cette double contrainte en important le militantisme dans la sphère professionnelle. Je détaillerai vers quoi ils se réorientent après. Et il y a aussi celles et ceux en bas, en noir, qui vont faire du militantisme syndical ou politique leur métier. Donc ça, c'est ceux qui vont devenir permanents d'organisation politique. Alors, ce schéma, ça sert à montrer une diversité des réponses, mais par contre, ça ne permet pas d'aller plus loin comme on veut le faire en sociologie, c'est-à-dire de montrer ben, qui sont celles et ceux, pourquoi certains sont à l'élevée des chèvres, quelle idée, là où d'autres sont devenus, j'en sais rien, permanents, politiques, à la LCR, pour donner un exemple que j'ai rencontré. Et donc là, on retrouve l'intérêt de faire à nouveau une analyse factorielle parce que justement ça permet de rapporter les types de conséquences de 68 aux caractéristiques, l'âge, le sexe, le statut en 68 des uns, des unes et des autres. Alors pour construire cet espace-là des devenir 68ards dans les années 70, comment m'y suis-je prise et comment résumer ça de manière claire? Alors peut-être, je vous disais, je m'intéressais aux effets de la participation à 68 sur les effets politiques, effets professionnels et effets privés. Donc j'ai construit des indicateurs de cette inflexion politique, professionnelle ou privée dans les trajectoires à partir des questionnaires. Alors pour les effets de 68 sur la trajectoire politique, j'ai utilisé un indicateur qui est le militantisme. Quel militantisme il déclare entre 68 et 74? Alors c'est là que j'ai mis là. Alors, je vais vous le présenter sur le schéma. Donc ici, on a, en fait, sur ce type de schéma, qui est assez simple à lire, tous les petits points, et c'est ça qui est intéressant, c'est tous mes enquêtés, tous les individus. Donc ça permet toujours de revenir, si par exemple le logiciel, et alors que là, vous voyez, il y a toutes les variables qui les caractérisent. Et si par exemple le logiciel, il me dit, bah, lui, cet individu-là, il est représentatif de cette sous-population-là, ou là, par exemple, Johanna, dont je dirai un mot tout à l'heure, je peux toujours revenir à Johanna, revenir à son entretien et faire des allers-retours comme ça entre le quantitatif qui objective un certain nombre de choses et le qualitatif qui réintroduit une dimension beaucoup plus sensible et de vécu personnel. Alors, sur où est-ce qu'il se situe politiquement? Parce que, en fait, ça, c'est un peu un espace social des différents devenirs post-68, entre 68 et 74. Même s'il y a des données sur l'après. Ici, il y a ceux qui déclarent un militantisme à l'extrême gauche. J'ai dû, pour les besoins de l'analyse, avant que vous criez tous, j'ai dû rassembler ici les trotskistes et les maoïstes, voire même avec les anarchistes. J'aime bien, c'est toujours un moment où je teste mon public à ce moment-là. Et jusque-là, je n'ai jamais été virée de la salle à grands coups de pied au cul. J'ai bien conscience que ça n'a rien à voir et que ce ne sont pas les mêmes. Mais on est obligé des fois pour les stats, et après, dans le qualitatif, on peut réintroduire des différences, de rassembler des types de militantistes qui ne se ressemblent pas forcément. Sauf que par contre, en même temps, dans ce type d'analyse, c'est qu'ils se ressemblent quand même plus, c'est avoir, disons, milité dans un groupe d'extrême gauche au début des années 70. Ici, c'est ceux qui déclarent que le syndicalisme a été leur principal militantisme. Parce que quand je dis principal, c'est qu'ici, ceux-là sont aussi syndicalistes. Mais ça, c'est ceux qui, vraiment, l'activité principale est le syndicalisme. Ici, on a celles et ceux qui déclarent un militantisme que j'appelais hors structure. C'est celles et ceux qui déclarent plein de participations, mouvements antinucléaires, LIP, LARZAC, soutien des mouvements féministes, mais sans qu'ils soient encartés ici ou là. Ici, on a ceux dont le féminisme est vraiment l'activité centrale. Et tout en haut, on a ceux qui n'étaient pas qui sont pas militants dans les années suivantes. Et ici, là aussi, grand hérésie, j'ai joint le PC et le PSU. ce que je ne referai pas, mais en fait, là, c'était aussi lié au type de corpus. Et en plus, après, dans l'analyse qualitative, je ne le fais pas, mais en gros, c'était aussi parce que souvent, c'était des personnes qui étaient déjà avant au PC ou au PSU et qui continuent, on va dire, à militer dans des partis politiques traditionnels, on va dire, déjà existants avant et institutionnalisés. Alors, ça, c'était rapidement pour les effets politiques. Pour les situer après sur les effets professionnels, il y avait une question du questionnaire qui demandait « Est-ce que mai 68 a eu un effet sur votre trajectoire professionnelle ?» Il y avait « Oui, beaucoup, oui, un peu, non. » Donc, c'est un peu frustre comme indicateur, mais après, il y avait une question ouverte. « Si oui, en quoi ?» Là, j'ai gardé que le « Ici, c'est oui, beaucoup. » Donc, celles et ceux, les petits points qui se situent par là, c'est ceux qui déclarent une forte incidence de 68 sur leur trajectoire. Ici, c'est ceux qui disent « Oui, ça a eu un peu un effet. » Je vais revenir après sur quoi. Et là-bas, c'est ceux qui disent que ça n'a pas eu d'effet sur leur trajectoire professionnelle. Et enfin, les indicateurs d'inflexion, d'infléchissement de leur trajectoire sur la trajectoire privée, personnelle, il y a l'expérience de la vie en communauté, et ils se retrouvent tous vers ici. La vie en communauté, la psychanalyse, l'influence de 68 sur le quotidien, sur le couple, la vie en communauté, je l'ai dit. Donc ça, c'était les différents effets de 68, sur lesquels je vais revenir plus qualitativement après, mais comme je vous le disais, je voulais rapporter ces effets aux caractéristiques des enquêtés. Donc il fallait mettre dans l'analyse les variables qu'on appelle lourdes, de base, on pourrait dire en sociologie, c'est-à-dire le sexe, l'âge, l'origine sociale. Le sexe, je l'ai mis là. Les hommes, il se trouve, ils sont plus de ce côté-là. Les femmes, là-haut. L'âge, il fait un peu une diagonale. Ici, elle est plus âgée, née avant 44, qui se trouve par là. Là-haut, c'est ceux qui sont nés entre 44 et 48. Et les plus jeunes sont nés après 48. L'origine sociale, ici, on a les enquêtés d'origine de classe populaire. Ici, classe moyenne et là-haut, classe sup. J'ai aussi mis dans l'analyse, et ça s'avère important, l'intensité de participation aux événements de mai 68. Donc là, en bas, il y a ceux qui participent activement. En haut, ceux qui participent peu activement. Ici, il y a ceux qui étaient militants avant 68. Là-haut, ceux qui n'étaient pas militants avant 68. Et la dernière variable importante, c'est le statut en 68. Est-ce qu'ils étaient salariés ou étudiants? Et ici, il y a ceux qui travaillent en 68. Et les étudiants et étudiantes sont là-haut. Donc, sur cet espace factoriel, je reprends l'autre micro, sur lequel je passe vite, mais si vous voulez des précisions sur la méthodologie, on pourra y revenir dans les questions. Maintenant, ce que je voulais, c'est vous présenter un peu ces différentes sous-populations qui correspondent à des devenirs différenciés. Mais peut-être avant de dire ça, c'est vrai que j'oublie souvent de dire que contrairement là aussi, mais parce que ça m'énerve tellement tout ce qui est dit dans la presse, etc., si je prends sur l'ensemble du corpus, avant de revenir sur les sous-populations, il y en a plus de 80%, donc ce sont plus de 200, hein, qui déclarent continuer à s'intéresser de très près à la politique, 60% qui manifestent régulièrement ou souvent pour différentes causes, 65% qui continuent à se situer en position 1 ou 2 à la gauche de la gauche sur l'échiquier politique, où on vous a déjà peut-être demandé de vous placer, 1 étant l'extrême gauche, 7 étant l'extrême droite. La moitié qui ont encore des activités militantes à gauche au moment de l'enquête, donc entre 2003 et 2006. Et un tiers qui sont membres d'associations ou d'organisations politiques type ATTAC, humanitaire, association de quartier. Ça, c'était de manière générale. Après, pour rentrer sur les différentes sous-populations. Donc la première, celle qui est en haut à gauche, cerclée de bleu, ce qui va faire un peu office de corpus témoin, elle se caractérise par l'absence d'effet notable de la participation à 68. Cette absence, elle doit être rapportée aux principales caractéristiques de cette population, hein, c'est-à-dire la relative absence de ressources militantes, puisqu'ils n'étaient pas militants avant, sa participation peu active à 68, son âge relativement élevé, son statut de salarié. En quelque sorte, cette population fait office de corpus témoin où à la très faible exposition à l'événement correspond la relative absence d'incidence biographique. Le deuxième profil collectif, celui cerclé en bas à gauche, regroupe une population majoritairement, je vais le faire comme ça, masculine. Voilà, il y a les hommes.
qui d'origine classe de populaire et qui travaille en mai 68, caractérisé par des retombées professionnelles de mai 68. Ici, on voit incidence professionnelle, l'absence d'incidence privée et une certaine confirmation et pérennisation des activités militantes antérieures. Alors ici, ils sont relativement âgés, on voit là. Ces enquêtés ont fait leur entrée dans le militantisme des années avant 68. Et c'est ça aussi qui explique que leur grille d'interprétation du monde, elle est stabilisée de longue date. Elle est peu susceptible, du coup, d'être radicalement transformée par les événements. Du coup, sur cette dialectique entre l'amont et les effets socialisateurs de l'événement, ici, les événements vont entretenir des dispositions militantes. Et ici, ces enquêtés vont continuer à militer au sein d'organisations politiques institutionnalisées, notamment au PC et au PSU, au lendemain de mai 68. Sur le plan professionnel, ils relatent quand même des transformations. Alors, ils sont salariés depuis plusieurs années, mais contrairement aux autres qui vont, pour certains, changer de métier carrément, ici, ils vont plus opérer une rénovation critique de leur profession. Notamment, il y a beaucoup d'enseignants d'origine populaire dans cette sous-population qui relatent des transformations qu'ils ont opérées dans leur manière d'exercer leur profession d'enseignant. Mais il y a aussi ici toutes celles et ceux qui cette rénovation critique des professions se fait via une implication plus importante dans le syndicalisme. Donc la troisième sous-population qui est située au sud-est du cadran, elle se caractérise par d'importantes incidences à la fois politiques, professionnelles et privées. Un militantisme, on l'a dit, à l'extrême gauche. Établissement, ici, je ne sais pas si vous arrivez à lire, établissement, c'est celles et ceux qu'on a appelés les établis, qui ont quitté l'université ou leur profession et qui sont allés se faire embaucher comme ouvriers en usine pour y justement faire advenir cette révolution. Pour aller enquêter parmi les masses, selon les préceptes du président Mao, parce que c'était principalement des maoïstes, mais pas que, il y a eu des établis d'autres tendances. Donc il y a aussi ici participation aux manifestations du Larzac, qu'on voit ici. Donc cette sous-population regroupe des enquêtés des deux sexes, qui avaient entre 20 et 24 ans en 68, majoritairement étudiants, qui participent très activement aux événements de 68 et incarnent dans les années 70 ce qu'on a pu qualifier de gauchisme politique. Alors, sur le plan professionnel, les incidences professionnelles prennent des formes collectives de critique de l'organisation de la production, que ce soit par un militantisme syndical ou par carrément le fait de faire du militantisme son métier. À l'exemple de Johanna, je vous l'ai montré tout à l'heure sur le diagramme, et c'est l'intérêt de pouvoir faire ce type d'analyse statistique, parce que c'est du coup, je peux vous dire, moi, Johanna, je l'ai rencontrée. Et très rapidement, elle est née en 48, elle a grandi en fait aux États-Unis où elle milite contre la guerre du Vietnam et elle rejoint dès son arrivée en France en 1966 un CVN, les comités Vietnam national. Donc au moment de la lutte contre la guerre du Vietnam, il y avait les CVN trotskistes et il y avait les CVB, les comités Vietnam de base maoïstes. Donc elle, après avoir rejoint un CVN, adhère à la JCR, la jeunesse communiste révolutionnaire trotskiste, à sa création en 67. Elle y milite très activement en mai-juin 68 et elle devient permanente à Rouge, le journal de la LCR, en 1970. Puis elle devient permanente à l'OCI, qui est une autre organisation trotskiste, à la fin des années 70, tout en étant une militante active du MLF. Quand je la rencontre, elle est à la retraite, mais avant elle avait été traductrice, et elle me dit au moment de l'enquête qu'elle a des difficultés financières, car un des effets de 68 ici réside dans l'absence de retraite complète du fait des années de militantisme à plein temps. Là, je le dis sur un cas particulier, mais c'est aussi pour dire de manière beaucoup plus générale que par rapport à ce qu'on dit sur la génération qui serait bien reconvertie, les effets du militantisme, c'est au contraire plutôt du déclassement, du temps donné, des retraites pas complètes, l'absence de promotion dans les entreprises où on était syndicaliste du fait de ses activités syndicales, etc. Toujours dans cette patate rouge, d'autres, je vous disais, changent de métier, d'autres se reconvertissent ou s'orientent dans le secteur social et dans l'animation socioculturelle. Beaucoup, l'éducation populaire, l'animation socioculturelle ou encore le journalisme et pour certains la recherche en sciences sociales pour militer par leur profession. Donc là, l'outil du travail, c'est la profession. On travaille au sens professionnel à changer le monde social, comme le souligne la réponse de François, qui est aussi dans cette patate, et qui, à la question sur l'incidence de 68 sur sa trajectoire professionnelle, il écrit « Définir mon emploi, ma profession, la révolution par l'éducation populaire ». Effectivement, il passe par les francas, il obtient son diplôme d'animateur, et quand je le rencontre, il dirige une maison de quartier d'un quartier populaire à Nantes. Donc sa trajectoire, elle est longuement détaillée, bien plus longuement que je ne le fais là, dans le chapitre 4 du livre, qui est justement, le chapitre 4 porte sur les effets sur la sphère professionnelle. La dernière sous-population, donc la patate verte, située à l'est du cadran, majoritairement féminine, vous voyez là où je vous ai dit qu'il y avait la variable femme, issue des classes moyennes et supérieures, regroupe les enquêtées les plus jeunes du corpus, étudiants en 68. Elle se distingue par l'importance des incidences professionnelles et privées, avec un militantisme peu institutionnalisé et la participation au mouvement féministe. Ce qui est intéressant, c'est toujours de comparer. Donc, comme les précédents, il et elle se trouvent dans une phase biographique marquée par leur disponibilité à l'événement, n'ont pas encore d'enfants pour la plupart, ni de travail fixe, sont beaucoup plus disponibles. Mais contrairement aux précédents, ils n'ont aucune ou peu d'expérience militante antérieure à 68. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, mai 68 ne va pas avoir les mêmes effets sur la trajectoire. Un cas typique ici est celui de Mathilde. Je ne me lève pas, mais elle est aussi, vous voyez, à l'est de la patate verte. Je vous en dis quelques mots, et là aussi, sa trajectoire, elle est longuement détaillée dans le chapitre d'après, qui porte sur les conséquences de 68 sur la sphère privée. Alors, Mathilde est née en 48, elle est fille d'artisans catholiques royalistes, scolarisée en internat religieux, en rupture familiale, et qui se marie très jeune, en 67, pour échapper, parce que la majorité à l'époque, c'était 21 ans, pour échapper à la tutelle paternelle, un des moyens, des fois, c'était de se marier, sauf qu'on se retrouvait sous un autre type de tutelle qui n'était pas forcément mieux. Et dans son cas, c'est le cas, puisque, alors, enceinte de sa première fille en 68, ce qu'elle me dit, j'ai dû me marier avec le premier homme que j'ai embrassé, je n'avais même pas couché. Donc, enceinte de sa première fille en 68, inscrite en lettres à la Sorbonne, elle entre réellement dans l'espace contestataire l'année suivante par les crèches parallèles, et plus généralement par les diverses formes de politisation de la sphère privée. Ici, c'est vraiment toutes les politisations, c'est lié le personnel et politique et un certain nombre de causes qui vont être politisées par ces femmes. Elle se dit militante anti-autoritaire, elle pourfend les institutions familiales et scolaires, elle vit dans différentes communautés dans les années 70, rejette le salariat alors qu'elle est diplômée, milite au MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, milite aussi contre le nucléaire, autant d'engagements caractéristiques de ce qu'on a pu qualifier de gauchisme contre-culturel. À ce pôle, donc, on ne milite pas, comme les précédents, sur son lieu de travail pour transformer les modes de production, mais on refuse plus individuellement d'être assujetti au salariat. Donc, ça va prendre diverses formes de rupture professionnelle, de trajectoire de marginalité sociale. Et donc ici, alors que ceux d'avant, l'outil du militantisme était la profession, ici, c'est la rupture professionnelle et la trajectoire individuelle transgressive qui sont les principaux outils du militantisme, avec comme espoir la diffusion du modèle par une logique d'exemplarité, typique de toutes les utopies communautaires. C'est vraiment l'idée de changer sa vie pour changer la vie, avec l'espoir que d'autres feront sûrement ou peut-être pareil. Mais donc là aussi, je me permets de vous renvoyer au chapitre 5 où je détaille cela plus finement et à partir de plusieurs trajectoires d'enquêter. Donc ça, c'était pour montrer rapidement que l'événement ne produit donc pas une, ni deux d'ailleurs, générations de 68. Il n'agit pas mécaniquement sur les trajectoires individuelles. Et ce que je fais dans l'avant-dernier chapitre, ce que le dernier porte sur les enfants, dans l'avant-dernier, j'essaye de rassembler les pièces du puzzle que je vous ai présentées rapidement, c'est-à-dire il y avait l'avant 68, d'où viennent-ils, d'où viennent-elles, qu'est-ce qu'ils font en 68 et quels effets la participation à 68 va avoir sur leur sphère politique, professionnelle et privée. Donc j'essaye de rassembler les pièces du puzzle et de construire ainsi une dizaine de ce que j'ai appelé des micro-unités de génération, c'est-à-dire quand même de dire qu'il y a des profils, des familles de trajectoires qui se ressemblent. Et donc j'ai décidé de ne pas abandonner l'idée de génération. Comme je vous le disais en tout début, c'était l'idée quand même que la participation à un événement va infléchir, modifier le cours prévisible, probable de trajectoire, mais qu'il me semblait que c'était bien plus compliqué qu'un événement qui agirait comme ça de manière mécanique et qui fera un peu table rase du passé, que ces micro-unités de génération se différencient entre elles par l'âge très important, le moment de la politisation, l'origine sociale, le statut en 68 d'étudiant ou de salarié, etc. Et peut-être, parce que je voulais quand même laisser... Laisser du temps pour les questions, mais du coup, ça peut... Peut-être, je dirais juste, je le tendrai une perche, mais que vous n'êtes pas du tout obligé d'attraper. Sur les enfants, je m'intéressais aussi, j'avais comme question, est-ce que les événements peuvent avoir des effets sur la seconde génération qui n'y a pas participé et par quel vecteur? Au début, j'ai posé beaucoup de questions sur est-ce que vous avez raconté, est-ce qu'il y a eu des transmissions de récits, d'objets, de prénoms? Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que ces formes explicites de la transmission était vraiment mineure par rapport à tout l'implicite de la transmission qui est passé par l'éducation. Et qu'en fait, c'est vraiment par les pratiques éducatives, notamment les pratiques contre-culturelles, qu'un certain nombre de 68ards ont transmis des héritages politiques à leurs enfants par les manières de les éduquer qui, pour le dire vite, en tout cas, j'ai construit un idéal type de l'éducation une pratique éducative contre-culturelle consistant à ne pas conformer ses enfants aux normes dominantes et donc à remettre en cause la norme, les normes de genre, les normes, la division sexuée des tâches, mais aussi le rejet de l'héritage, la remise en cause des relations de domination dans la famille, donc homme-femme, mais aussi parents-enfants, et donc des enfants qui se trouvent au cœur de cette redéfinition du quotidien, des métiers, comme diraient les sociologues, des métiers d'enfants, des métiers de parents, et qui du coup se retrouvent eux-mêmes vecteurs de cet héritage de 68. Donc je ne dis pas ce qu'ils deviennent, mais si vous me demandez, je vous le dirai. Je vous remercie.
Donc, à vous la parole. Une perche étendue, mais il y en a plein d'autres.
Bonjour, merci pour votre exposé. Est-ce que vous avez étudié un peu la question dans le devenir de 68, notamment sur la violence? On s'est aperçu que les mouvements en Allemagne, en Italie, ont dégénéré dans des phénomènes de violence excessivement importants, alors que chez nous, c'était relativement réduit, en dehors d'actions directes. Ça n'a pas été très, très violent. D'après vous, qu'est-ce qui a jugulé cette violence potentielle?
Je propose qu'on prenne plusieurs questions. Comme ça, ça me permet de... ça permet de laisser la parole à plusieurs personnes. Et puis, comme je n'ai pas forcément toutes les réponses...
Pour ma part, j'aimerais savoir comment vous avez intégré une autre forme de militantisme qui ne se prétendait ni politique ni syndicale et qui est très active encore maintenant, c'est le militantisme associatif, qui se revendique plutôt d'humanisme. Merci.
Une autre question ? On va peut-être poser quand même la question des enfants.
Pas se sentir obligé, hein.
On est intéressé.
D'accord. Alors, du coup, je réponds à ces trois questions. Peut-être en commençant par celle sur le militantisme associatif. Justement, mon entrée, en tout cas sur 68, j'avais une définition très large, très extensive de c'est quoi un 68ard ou une 68ard. Parce que sinon, en appelant les gens, ils commençaient toujours par me dire « Ah, mais moi, je ne suis pas un 68ard typique ». Et donc, c'est comme les femmes, quand on travaille sur le féminisme, qui commencent toujours par dire « Je ne suis pas féministe, mais… ». Et donc là, je leur disais, oui, j'avais pris une définition très large, puisque justement, je voulais aussi voir les répertoires différenciés de participation, ne plus invisibiliser notamment des répertoires féminins de participation qui étaient peut-être moins véhéments, etc. Et du coup, c'était rentrer dans mon échantillon celles et ceux qui avaient participé à au moins un événement, soit dans la rue, soit dans leur lieu d'éducation pour les lycéens et les étudiants, ou soit sur leur scène, sur leur lieu de travail, qui avaient participé. Par contre, je prenais une unité de temps quand même pendant les mois de mai et juin à un événement lié aux événements. Du coup, ça faisait une définition très large qui me permettait d'avoir différents types d'investissements. Et d'avoir dans le corpus des personnes qui n'étaient pas des militants de partis politiques et ou pas des militants de syndicats, mais qui pouvaient être militants. Alors, en termes associatifs, ce qui notamment est très important, là je parle de Lille, Roubaix, Tourcoing, c'est notamment ce qui a d'abord été les APF, les associations populaires des familles, qui sont aussi devenues les CSCV, où beaucoup de femmes y participaient, hein, qui étaient un peu des associations de quartier, le militantisme, le syndicalisme du cadre de vie. C'est aussi ça qui permet de
réintégrer à l'analyse des dimensions qui ne sont pas forcément centrées sur la sphère du travail. Et du coup, alors, je sais parler de ça, c'est pour l'enquête dont on va. Je me permets de redire à ceux qui sont arrivés après qu'on vous invite chaleureusement à une journée entière le 29 mai où on va restituer les premiers résultats d'une enquête qu'on mène depuis 4 ans sur les trajectoires de 68 arts des 68 arts à Lille, Roubaix, Tourcoing. Donc ça sera, et c'est le 29 mai, l'amphi Cassin au campus Moulin. Sinon, dans ma thèse, les militantismes associatifs, je le rattrape aussi parce que j'ai posé des questions sur toute la trajectoire militante au sens large, hein, où je mettais est-ce que vous avez été adhérent d'associations et où du coup, comme je le disais rapidement tout à l'heure, il y a un grand nombre des enquêtés avec lesquels j'ai fait cette thèse qui se retrouvent adhérents d'associations au moment de l'enquête, hein, dans les années 2000, d'associations de quartier, d'associations humanitaires, d'associations politiques type ATTAC, et donc en gros, je retrouvais ce militantisme associatif dans ces questionnaires où je demandais, sans définition stricte, je demandais aux gens quel type de militantisme est-ce que vous avez eu, et je posais des questions sur les associations. Je crois que je vais sortir mon joker pour la première question, parce que en fait, cette première question... et c'est pas pour l'écarter, hein, sur pourquoi est-ce que la France, quelque part, a évité la question de la prise des armes, à part certains groupes comme Action Directe, comme vous l'avez dit, parce que c'est une question qui a été extrêmement traitée par d'autres. Et comme moi, je n'ai pas fait un travail comparatif avec d'autres pays, alors j'ai beaucoup lu sur l'Allemagne, sur l'Italie, etc., mais du coup, ce n'est pas là où je sens que je ne vais pas vous apporter une réponse des plus intéressantes. Mais par contre, je peux vous dire d'aller... Je ne sais pas si vous connaissez le travail d'Isabelle Sommier, qui avait fait sa thèse sur le deuil de la violence dans les années 70 et 80, comparé France-Italie. Et donc, a beaucoup travaillé sur cette question du rapport à la violence. Après, dans les entretiens, notamment à Lille, Roubaix, Tourcoing, pas mal de gens qui étaient à la gauche prolétarienne, enfin dans des organisations maoïstes où ces questions se sont posées, mais au PSU aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens, et ça j'étais la première étonnée, le PSU en 69, il vote la dictature du prolétariat. Et la question de... Alors le PSU, c'est aussi que c'est un parti politique qui était très, 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 très varié, avec des courants multiples, et puis selon les localités, avec des dimensions plus ou moins radicales, etc. Mais moi, je me rappelle un entretien qu'on a fait à Roubaix, oui, où la question de faut-il prendre les armes ou non, la question de la violence... a été largement discutée et a souvent été à l'origine de scissions. Et donc, effectivement, il y en a qui partent du PSU sur cette question-là. Voilà. Après, non, je ne veux pas m'avancer sur des... Je connais les raisonnements des uns et des autres, mais comme ce n'est pas de première main, je ne veux pas donner l'impression que c'est moi qui ai avancé ces idées. Et donc, rapidement, sur les enfants, en fait, là aussi, si ce que je peux dire sur les enfants, c'est que moi, je ne me reconnaissais pas. Il commençait à y avoir un peu cette idée reçue, ce lieu commun là aussi, d'une génération d'enfants de 68 ans qui auraient été élevés sans repères, qui n'auraient pas d'histoire, qui seraient individualistes, et puis qui auraient été des cobayes et qui seraient donc forcément dans le rejet de l'héritage parental. Ben là, sur les 167 familles, en fait, ben, là non plus, je crois que j'ai un enfant qui va se dire de droite, donc il y a des très fortes transmissions... de préférence politique, des enfants qui, pour beaucoup aussi, c'est assez intéressant, les formes que vont prendre ces héritages, certains ne vont pas se revendiquer féministes ou se revendiquer écolo, mais vont l'être dans des pratiques quotidiennes. Il y a vraiment un effet que je vois bien sur les familles enquêtées, qu'il y en a certaines dans lesquelles les mères, par exemple, revendiquaient un certain nombre de choses théoriquement dans des organisations féministes, sans forcément arriver à le mettre en pratique dans leur couple, par exemple, et où les enfants, les filles ou les fils aussi ne vont pas forcément se dire féministes, ne vont pas être militants dans des associations ou des organisations féministes, mais vont, un peu comme un héritage évident, un truc incorporé, enfin un héritage incorporé, bah, vont mettre en œuvre le partage des tâches puisqu'ils ont été élevés de cette manière par leur mère. Donc il y a beaucoup ça. Une autre manière aussi, donc je montre tout ça pour dire, je montre qu'il n'y a pas d'enfants de 68 archétypes et que tout dépend effectivement de quel type de militantisme, quel type de militants étaient leurs parents, et là aussi très important, à quel moment naissent les enfants. Mais disons que pour ceux qui ont eu une éducation contre-culturelle, disons assez poussée, avec, avec l'idée, effectivement, pour certains parents, avoir des enfants différents, enfin, fabriquer quelque part des enfants différents, ça faisait partie du militantisme, avec un peu l'idée de l'utopie de l'homme nouveau. Si on change les choses à la base, on va faire une société où les humains seront meilleurs. Alors, avec aussi beaucoup de recul, quand je fais des entretiens avec des enquêtés qui me disent, bon, on croyait qu'on arrivait, on allait réussir à faire tomber la domination masculine en offrant des Barbies aux garçons et des pistolets aux petites filles, puis qui, après quelques années de recul, se rendent compte que, évidemment, ça se saurait si c'était si simple, parce que les parents ne sont pas les seuls agents de la socialisation. Et du coup, en fait, ce que je montre pour ces enfants, c'est qu'ils sont un peu, pour la plupart, tiraillés. Et souvent, ils se disent, je suis coupé en deux, je me sens bien partout, mais bien nulle part, qu'ils cherchent leur place, puisqu'ils ont eu une première éducation contre-culturelle, ou pour le dire vite, on leur a appris à critiquer la société dans laquelle ils grandissaient, à ne pas adhérer aux normes dominantes. Et en même temps, après, ils sortent de ces écoles différentes pour ceux qui y sont allés. Et donc, ils sont confrontés à une socialisation beaucoup plus classique au lycée, puis au moment de rentrer sur le marché du travail. Et donc, face à ce hiatus, il y a cette question de comment trouver une place dans une société à laquelle on m'a appris à ne pas forcément adhérer. Et donc, là, il y a différentes réponses, une fois de plus, face à ce hiatus. Certains vont essayer de trouver des niches sur le marché du travail où ils peuvent mettre vivre selon cette éducation contre-culturelle, donc notamment on en retrouve beaucoup dans les milieux artistiques, donc des niches du travail où on n'a pas forcément de patron, donc la question du rapport à la hiérarchie, mais aussi dans ces différents milieux artistiques, beaucoup me disent que c'est parce que l'art permet aussi d'exprimer une différence. Cette différence d'enfants éduqués différemment, puis qui grandissent dans une société, c'est bien ça aussi qu'il faut rappeler, les années 80-90, par rapport aux années 60-70, que certains d'entre vous, je vois bien, à la couleur de vos cheveux, ont vécu. Il faut aussi dire, des fois les parents disent, oui, je ne comprends pas, ils ne sont pas militants, ils sont individualistes, mais là on répond, bah oui, mais c'est plus du tout les mêmes structures. La condition, le marché du travail, complètement éclaté, n'est pas forcément propice aussi, l'offre militante n'est pas la même. Donc, c'est vrai que sur les enfants enquêtés, qu'un cinquième qui ont été militants, d'une manière ou d'une autre, 20% il y en a. Soit on dit, c'est pas beaucoup, puisque tous leurs parents ont été militants à un moment ou à un autre, soit on se dit, mais par rapport à leur génération, c'est énorme, le pourcentage d'une cohorte qui est militant, alors tout dépend ce qu'on met derrière militant, mais c'est beaucoup moins que ça. Donc, il y en a aussi beaucoup qui disent, moi j'ai hérité du besoin de s'engager, mais qui ne trouvent pas dans l'offre existante où s'engager. Voilà, pour l'instant, je réponds comme ça, partiellement. Comme ça, ça laisse encore du temps pour répondre à d'autres questions. Alors, remarques ou témoignages.
Je suis là, j'attends vos questions. Deux ou trois.
Je dois être un spécimen qui a vécu mai 68. Et quand même... Là, vous parlez de ce qui arrive à des enfants, avant, après, mais il y a des faits importants quand même qu'il faut signaler avant et qui ont conditionné, en quelque sorte, les répercussions dans les familles et dans le militantisme. À l'époque, le Parti communiste était très implanté à la CGT, par exemple, qui a été à l'époque un fer de lance. Ce qui s'est passé aussi, il y a le SNES-SUP aussi. Hein, les militants Sauvageau, etc., Cohn-Bendit, étaient en symbiose avec un SNES-SUP qui était totalement gauchiste. Et donc, il y a une espèce de lutte permanente, au début, entre les gauchistes et les autres. Hein, les syndicats enseignants étaient forts, et ils n'étaient pas si révolutionnaires que ça, bien qu'ils portaient autre chose. Par exemple, l'université à l'époque se caractérisait par un mandarinat auquel tout le monde voulait échapper. La société gaulliste était fermée avec des scandales qu'on a oubliés, scandale UNR sur l'immobilier. C'est une société fermée dont il fallait casser pas mal de choses pour aller vers une autre vie. Les salaires, dans les 30 glorieuses, les salaires des ouvriers, moi, je suis dans un milieu ouvrier, un père qui ne savait pas lire, qui était manœuvre, les salaires des ouvriers étaient très, très, très bas. Et c'est le miracle économique des 30 glorieuses, et ils ont souffert. Voilà. Et par rapport à ça, finalement, il y a eu aussi des événements dans des lycées. Moi, j'ai pris mes premiers postes au 66, 67, 68, dans les lycées, on était coincés parce que moi, j'habitais Poitiers et j'étais au lycée technique, un grand lycée technique. Il y avait plus de 1000 étudiants. Et là, il y a eu spontanément une prise de pouvoir par les enseignants qui ont, en quelque sorte, réuni tous les élèves et ont fait de la culture. Je me souviens, on rassemblait tous les élèves dans la grande salle de gymnastique, qui était énorme, avec une estrade, et certains sujets, c'était « Est-ce que Le Monde, le journal Le Monde, est objectif ?» Et c'était vraiment un débat très, très... où les jeunes participaient. On a fait aussi une pièce de théâtre qui a été jouée, on était coincés, hein, on n'avait plus d'essence, etc. Et donc, on a fait une pièce de théâtre qui a été donnée partout. La question, c'est justement, par rapport à ce que vous disiez, vous évitez toutes ces choses, hein, enfin, ce que je viens de dire, et c'est difficile de reporter ça sur, disons, des choses qui seraient de parents, et donc je lirai votre livre avec intérêt, hein, mais cette ablation, qu'est-ce que vous pensez du fait que, quand même, on a toujours... vous avez une technique qui rassemble des corpus, des groupes, et avec un exemple d'un individu ou de quelques individus qui font que... Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que j'ai...
Est-ce qu'il y a une autre question?
Bonjour et merci. Moi, je vais revenir, alors c'est un peu différent, je vais revenir sur la question des enfants, parce que vous avez parlé d'une transmission par des pratiques éducatives. Alors, peut-être quelque chose que vous avez déjà plus ou moins esquissé dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que dans ces pratiques éducatives, vous avez réussi à distinguer ce qui relève plutôt des pratiques dans le milieu scolaire, des pratiques dans le milieu familial et des pratiques dans le milieu extrascolaire ? Et peut-être associative ou activité de loisirs, peu importe. Et est-ce qu'il y aurait des tensions ou des mises en cohérence par rapport à ces pratiques éducatives, mais qui se déroulent dans des sphères différentes? Et puis après, une autre question, mais là, c'est peut-être déjà en dehors de votre objet d'étude, puisque vous parlez de transmission par les pratiques éducatives, donc transmission des générations de parents à générations d'enfants, est-ce que, selon vous, cette transmission perdure vers d'autres générations, sous quelle forme, voilà.
Vous ouvrez sur la question que moi-même j'ouvrais en conclusion de ma thèse en disant il faudrait poursuivre sur la génération des petits-enfants et comment les enfants sont plus tard ont élevé leurs enfants. Mais je vois qu'il y a on va prendre une dernière question.
Oui, moi j'étais un peu étonné là. Vous avez fait votre étude sur deux écoles, donc sur les parents et les élèves de ces deux écoles, et j'ai du mal à imaginer que, vous avez dit que c'était des écoles publiques, mais qu'il existait la possibilité de faire des écoles qui n'étaient pas dans les standards. Moi, je pensais que notre enseignement national imposait un moule, des programmes, etc., dont on ne pouvait pas sortir. Donc ça m'étonne. Vous m'auriez dit que ce sont des écoles privées, ben là, ça ne me choquait pas. Là, que ce soit public, ça me questionne.
Bah, je vais peut-être commencer par répondre directement à ça. En fait, à la dernière question de monsieur, en fait, les écoles, les pédagogies alternatives, elles n'ont pas attendu 68 pour exister dans le public. Hein. Tout le mouvement freiné, hein, tout le l'ICEM, c'est-à-dire que ça existe depuis longtemps, depuis le début du XXe siècle, cette question de la réflexion freinée qui pose la question de comment rendre l'école moins élitiste et donc qui était pensée pour des pédagogies alternatives aussi pour lutter contre l'échec scolaire des enfants des classes populaires. Donc il y a des pédagogies alternatives, une réflexion sur des pratiques pédagogiques différentes dans l'enseignement public qui existent bien avant 68 et qui sont représentées dans les syndicats étudiants, notamment dans les syndicats des enseignants. La FEN, un des courants de la FEN, c'était l'école émancipée où il y avait beaucoup d'enseignants qui, là, étaient à l'école émancipée, c'est-à-dire ceux qui avaient réfléchi à la critique de l'école. Après, ces critiques de l'école qui existent avant 68, j'insiste là-dessus, évidemment, avec 68, ça rentre en résonance, et du coup se développe après 68 plein d'écoles parallèles. Et il y a eu effectivement des écoles parallèles privées. Il y a aussi des mouvements de déscolariser, enlevons nos enfants de l'école, etc. Mais par contre, moi, je voulais travailler sur des écoles publiques, justement pour ne pas avoir un corpus de famille trop singulier, et pour pouvoir avoir, comme c'était une école publique, ben, des gens de différentes conditions, et aussi ceux qui avaient mis leurs enfants là, parce que c'était l'école de quartier, et non pas parce que c'était des écoles expérimentales. Mais donc, oui, ça existe. Puis en fait, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a peu des écoles entièrement expérimentales, mais les deux sur lesquelles que j'ai travaillé en thèse, continuent à exister. C'est une école freinée à Nantes. Après, en fait, il y a des écoles qui se revendiquent vraiment d'un pédagogue. Il y en a d'autres qui se revendiquent, l'école Vitruve à Paris, elle se revendique de plein de pédagogues. Ça peut être de Crowley, Montessori, ça peut être aussi des pédagogues russes à l'époque, hein, Makarenko, la question de collectiviser les enfants. Enfin, il y a eu des réflexions de différents courants, certains communistes, certains libertaires. C'est aussi que c'est très diversifié politiquement, ces réflexions autour de changer les pratiques pédagogiques. Ah oui, bien sûr, par contre, il y en a peu hein, de ces écoles. Il y en a peu de ces écoles. Ah oui, bien sûr. Bien sûr que la majorité des écoles, c'est pour ça aussi que votre étonnement, j'y réponds de manière, ne m'étonne pas non plus beaucoup, parce qu'effectivement, ça a toujours été minoritaire. Moi, aujourd'hui, mes enfants sont à l'école primaire dans la ville à Saint-Denis où j'habite. Par contre, ce qui se fait de plus en plus, c'est des instits freinés, mais dans des écoles publiques. Donc, des fois, il va y avoir une classe où il y a un instit freiné qui, dans sa classe, tente de mettre en œuvre des choses un peu différentes. Du coup, juste je regarde l'heure. Oui. Par rapport à la première prise de parole de monsieur sur votre expérience aussi comme jeune enseignant, si j'ai bien compris, dans un lycée technique de Poitiers, et merci pour le témoignage, j'en ai entendu. J'ai l'impression juste que vous dites que ce n'est pas pris en compte. J'ai pas pu du tout tout restituer, mais en fait, les témoignages d'âgé dans les lycées où les lycéens peuvent être accompagnés de certains jeunes enseignants militants. Oui, il y en a plein qui m'ont raconté ces expériences hyper importantes où le lycée est occupé, avec tout ce que ça entraîne après en termes de discussion, de confrontation, etc., etc. Il me semble que c'est pas forcément... Enfin, j'avais l'impression que vous le présentiez comme antinomique avec... Là, peut-être que dans la présentation, j'ai donné peut-être trop ou beaucoup de place au STAT, mais en fait, l'idée, c'est pas forcément d'ailleurs de prendre juste un exemple à chaque fois. Je prends plein d'exemples différenciés. Après, quand on fait de la socio, effectivement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer qu'il y a des... Chacun a une expérience singulière, mais qu'en même temps, il y a des ressemblances. Et voilà, j'ai essayé de rassembler des familles de trajectoires qui se ressemblaient. Après, vous avez bien fait aussi de rappeler l'importance du SNESUP, Sauvageau, enfin Cohn-Bendit, c'était pas SNESUP lui, mais et l'importance de la CGT. Après, si j'ai pas développé, mais là je vous invite une fois de plus, c'est pas pour repousser la question, mais à venir le 29 mai, parce que cette question de la CGT plus ou moins anti-gauchiste, ça dépend aussi vraiment des sections syndicales, des lieux. Et donc nous, quand on a comparé Lille, Nantes, Rennes, Lyon et Marseille, en fait, il y a un rapport aux gauchistes qui est très différent. Et souvent, on met en avant que le rapport aux gauchistes des instances dirigeantes, mais après, il peut y avoir des secrétaires de sections locales de la CGT qui vont être plus ou moins favorables. Et donc, en gros, ça vaut le coup d'aller voir après localement la configuration, même des fois au sein même de quelle entreprise on est, où il va y avoir une CGT qui va être plus ou moins anti-gauchiste. Mais effectivement, cette question, là où vous avez raison, c'est que cette question du rapport à la CGT et au PC, elle a été centrale dans les positionnements des uns et des autres. Et là où vous l'avez dit, mais je pensais l'avoir dit aussi, évidemment que la question de ce que les accords de Grenelle ont apporté en termes d'augmentation de 35% du SMIC et de manière générale de 10% des salaires réels, malgré le fait qu'il y a eu un rattrapage avec l'inflation, ce qui est aussi très important en termes de droits des salariés qui a été obtenu avec 68, c'est les sections syndicales d'entreprise. Et donc, elles sont évoquées dès les accords de Grenelle, et c'est la loi de décembre 68 qui fait rentrer les syndicats dans les entreprises. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est une conséquence directe de mai 68 qu'on ne rappelle jamais. Plus 400 000 adhérents à la CGT en 69, plus 100 000 adhérents à la CFDT avec des sections syndicales qui se créent dans énormément d'entreprises. Voilà. Et oui, et donc du coup sur les questions de Madame au fond, sur les pratiques éducatives, oui, il y a évidemment des dissensions, des dissonances entre les pratiques éducatives qui pourront être mises en œuvre dans la sphère familiale, dans la sphère scolaire et aussi dans les sphères extrascolaires. Dans l'extrascolaire, je pense aussi beaucoup aux CLAE, les centres de loisirs et activités, en gros aussi à toute la réflexion sur les adultes coéducateurs, les parents coéducateurs avec les enseignants. Donc il y a eu aussi toute une réflexion sur comment faire rentrer les parents dans les écoles, mais qui ont été plus ou moins faciles à mener et qui ont pu rentrer en tension avec les enseignants qui n'étaient pas forcément d'accord avec le fait que les parents rentrent dans les écoles, etc., ce qui était le cas dans l'école à Nantes où ça a capoté. Et entre les dissensions entre les pratiques éducatives familiales et scolaires, dans le corpus des familles sur lesquelles j'ai travaillé, il y a une forte, il y a une remise en cause de l'institution familiale et scolaire. Donc disons qu'il y a un prolongement entre ce qui est mis en œuvre dans la sphère familiale, le rejet des normes dominantes, et ce qui est mis en œuvre dans les écoles alternatives. Mais par contre, du coup, pour avoir continué à travailler sur ces trajectoires et ces familles 68 tardes depuis 10 ans, pour ceux et celles et ceux qui mettent leurs enfants dans des écoles qui ne mettent pas en œuvre ces pratiques-là, oui, il peut y avoir des valeurs transmises par la famille qui vont être presque orthogonales à celles qui vont être véhiculées dans l'école. Et donc, effectivement, avec des enfants qui vont dire on me dit ça d'un côté, on me demande ça de l'autre. Et du coup, avec, souvent, ces dissonances, ça peut avoir comme effet d'entraîner des enfants et des jeunes adultes réflexifs. C'est-à-dire que quand tout ne va pas de soi, parce qu'habituellement, tout va de soi, mais quand il y a des choses qui assez jeunes, on se rend compte que c'est dissonant, ça fait se poser des questions. Et donc, ça amène effectivement à beaucoup de réflexions sur mais quelle est ma place, etc. Donc je réponds vite, hein, mais sur ces questions de dissonance entre les pratiques éducatives, oui, mais même aussi d'ailleurs ne serait-ce que certains auxquels je pense, qui mettent en œuvre une éducation, on va dire, très ouverte, très libérale, qui se font appeler par leur prénom. Il y a la moitié des enfants enquêtés qui appellent leurs parents par leur prénom, alors que c'est très rare ça. Donc là, il y a la moitié de mon corpus. Donc là aussi, derrière ça, il y avait plein de choses. Hein. Il y avait l'idée pour un certain nombre de 68 heures de ne pas se faire appeler papa ou maman pour ne pas être réduit à leur rôle de reproducteur. Mais il y avait aussi pour certains l'idée que derrière ces termes d'adresse, hein, derrière le terme de papa et maman, se cachait un chantage affectif. Parce que derrière les affects de papa et maman, il y avait ces relations autoritaires. Donc pour certains, ils disent qu'ils se sont fait volontairement appeler par leur prénom pour arrêter de masquer par des diminutifs affectifs, en fait, une forme de domination très forte. Du coup, là, il peut y avoir un certain nombre d'entre eux qui disent à l'école, ou même dans leur famille, chez leur oncle, leur tante, leur cousin, ça pouvait paraître complètement lunaire, extraterrestre, d'appeler ses parents par leur prénom. Et aussi, du coup, ça fait des... En répondant, ça me fait venir d'autres idées. Il y avait des enfants qui étaient en opposition, qui résistaient quelque part à l'anticonformisme. Par exemple, dans ces écoles, il n'y avait pas de cartable. Et là, c'est marrant, il y avait des mamans, des anciens 68-ards, qui me disaient, moi, mon fils, ils avaient trois fils, les enfants réagissaient aussi différemment. Il y en a un qui avait revendiqué qu'il lui fallait un cartable. Parce que c'est pas facile d'être un enfant différent. Enfin, moi, j'ai commencé là-dessus, sûrement, on me disait que je puais la chèvre, que je ramenais les poux, etc. Bon, les enfants, ils sont très durs face à toute manifestation de non-conformisme, que ce soit son rôle de sexe ou à son rôle d'enfant, etc. Du coup, il y avait des enfants qui revendiquaient d'avoir un cartable, mais qui ne mettaient rien dedans. Et comme ça, ils avaient un cartable. Ou des enfants qui refusaient d'appeler leurs parents par les prénoms. Donc, il y a des cas comme ça que j'essaye d'analyser aussi un peu, de résistance enfantine à l'anticonformisme. Merci.
Merci. Vous pouvez prendre un petit café à la sortie, n'hésitez pas.